Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Tchad, les forces armées loyales au maréchal Khalifa Haftar disent avoir mené hier une opération réussie contre un groupe de l'opposition tchadienne dans le sud de la Libye, près de la frontière tchadienne, selon un média proche de l'enfort de l'Est libyen. Pour leur part, les rebelles du FACT, à l'origine d'une offensive le 11 avril sur N'Djamena, qui a entraîné la mort du président Idriss Déby Itno, ont indiqué dans un communiqué que l'une de leurs positions avait été attaquée par, je cite, la brigade dite de Tarek Ben Ziyad, appuyée par des supplétifs soudanais et encadrée par des officiers de l'armée française de la mission Barkhane. Fin de citation. Selon le FACT, les combats ont eu lieu sur le territoire tchadien. La Russie, menaçant d'utiliser son droit de veto, a provoqué un blocage au Conseil de sécurité sur le renouvellement pour un an de la mission politique de l'ONU en Libye. Le langage prévu sur le retrait des troupes étrangères et mercenaires ainsi que sur le rôle de l'émissaire de l'ONU ne convient pas à Moscou selon des sources diplomatiques. La France menace de retirer ses troupes qui combattent depuis 8 ans les groupes djihadistes si Bamako signe avec le groupe russe Wagner un contrat pour le déploiement éventuel de paramilitaires russes au Mali. Nous y reviendrons avec Michel Joseph et Bagassi Koura, tout comme sur la série de consultations nationales actuelles en Guinée avec notre correspondant Zakaria Camara. En République démocratique du Congo, 4 militaires ont été condamnés ce lundi à la réclusion à perpétuité pour meurtre et 2 autres à 20 ans de prison pour viol au sud Kivu, a-t-on appris hier de sources militaires. Le Togo a prolongé ce mardi de 12 mois l'état d'urgence sanitaire suite à la recrudescence de nouveaux cas de coronavirus ces dernières semaines. Le gouvernement avait demandé 6 mois de prorogation. Le Parlement zimbabwéen a interdit mardi aux fidèles non vaccinés contre le Covid-19 d'assister aux offices religieux, dernière d'une série de mesures visant à doper la campagne de vaccination. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Covid-19, Strive Masiyiwa, a lancé un appel pour que les fabricants de vaccins en vendent aussi aux pays africains où les dons de doses manquent cruellement alors que les pays les plus avancés administrent des troisièmes doses. Ici aux États-Unis, victoire pour le camp démocrate du président Joe Biden. Les électeurs de Californie ont décidé de maintenir en fonction leur gouverneur, Gavin Newsom, votant majoritairement non au référendum organisé par ses détracteurs pour obtenir sa révocation, selon les premières estimations diffusées mardi soir par les médias américains. Par ailleurs, le chef d'état-major inter-armes, le général Mark Milley, s'inquiétait tellement de l'état mental de l'ancien président Donald Trump dans les derniers jours de son mandat, qu'il a pris secrètement des mesures pour éviter une guerre avec la Chine, selon les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Robert Costa, dans leur nouveau livre « Péril » à paraître dans les prochains jours. Le général Milley, ont-ils écrit, a téléphoné à son homologue chinois pour lui assurer que les États-Unis n'attaqueraient pas la Chine. M. Trump a critiqué vertement le général Milley, écrivant dans un communiqué « Je suppose qu'il sera jugé pour trahison s'il a échangé avec son homologue chinois derrière le dos du président. 4 humains n'ayant jamais été dans l'espace auparavant peuvent-ils passer 3 jours seuls en orbite autour de la Terre et en ne s'étant entraînés que quelques mois ? C'est le défi que s'est lancé SpaceX, dont la première mission de tourisme spatial doit décoller ce soir sans aucun astronaute professionnel à bord. suite de nos informations, les autorités françaises se sont ouvertement inquiétées hier des discussions entre Bamako et la société privée russe Wagner. Paris avertit qu'un déploiement de paramilitaires russes au Mali pourrait entraîner un retrait des troupes françaises qui combattent depuis 8 ans les groupes djihadistes. Le point avec Michel Joseph.
Une implication de la société privée russe Wagner au Mali serait incompatible avec le maintien d'une force française, a averti hier Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. C'est absolument inconciliable avec notre présence, car selon lui, les paramilitaires de Wagner se sont illustrés en Syrie, en Centrafrique, avec des exactions, prédations et des violations en tout genre. Si les autorités maliennes devaient signer un contrat avec la société Wagner, ce serait préoccupant, contradictoire et incohérent avec l'action de la France au Sahel, avait auparavant réagi la ministre des Armées, Florence Parly. La junte au pouvoir à Bamako étudie la possibilité de conclure avec Wagner un contrat sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes pour former ses forces armées et assurer la protection des dirigeants. L'agence Reuters a révélé hier une telle information et, sollicité par l'AFP, le ministre malien de la Défense a admis mener des discussions mais précise que, pour l'heure, rien n'a été signé avec Wagner. Le groupe Wagner, avec qui Moscou dément tout lien, fournit des services militaires et des formations. Il appartient à Evgeny Prigogine, un homme d'affaires proche du président Vladimir Poutine. Ces hommes sont déjà présents en Libye, alliés au maréchal Haftar. Des médias occidentaux font état d'une présence au Soudan et au Mozambique. En début 2018, l'arrivée d'armes et de conseillers militaires russes en Centrafrique avait permis à la Russie de faire un retour spectaculaire sur le théâtre africain.
L'ex-président angolais José Eduardo dos Santos est de retour en Angola après plus de 2 ans en Espagne. Il revient alors que son clan est ciblé par une vaste campagne de lutte anticorruption. Abdulrahman Dia fait le point.
José Eduardo dos Santos a quitté Luanda pour Barcelone en avril 2019, officiellement pour raisons de santé. L'agence Angop n'a pas précisé s'il était rentré définitivement ou s'il allait retourner en Espagne. Après 38 ans au pouvoir, M. dos Santos, 79 ans, est accusé d'avoir détourné les ressources nationales en favorisant sa famille et ses proches. Selon la Constitution, il reste protégé de toute poursuite criminelle par son statut d'ancien président jusqu'en 2022. Mais son entourage et les membres de sa famille n'ont pas été épargnés par des poursuites judiciaires depuis l'arrivée en 2017 de son successeur et ancien ministre de la Défense, João Lourenço. Sa fille Isabel dos Santos, première femme milliardaire d'Afrique, a été débarquée de la tête de la compagnie pétrolière nationale, la Sonangol. Ses avoirs angolais ont été gelés et elle a été inculpée dans différentes affaires. Son fils, José Filomeno dos Santos, a lui été condamné à 5 ans de prison pour avoir détourné de l'argent provenant du Fonds souverain de l'Angola qu'il avait supervisé de 2013 à 2018.
En Haïti, le chef du parquet de Port-au-Prince a demandé ce mardi au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le premier ministre. Ariel Henry, accusé d'avoir eu des conversations téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Précision de Jean-Roger Bion.
Dans une lettre adressée au tribunal de première instance de Port-au-Prince, le procureur Bedford Claude assure qu'il existe suffisamment d'éléments compromettants qui forment sa conviction sur l'opportunité de poursuivre le premier ministre Ariel Henry et de demander son inculpation pure et simple. Le commissaire du gouvernement a par ailleurs demandé que M. Henry soit interdit de quitter le territoire haïtien en raison de la gravité des faits exposés. Vendredi soir, Bedford Claude avait déjà invité le chef du gouvernement à se présenter mardi au parquet, affirmant que M. Henry avait eu, quelques heures après le meurtre de Jovenel Moïse, des conversations téléphoniques avec Joseph Félix Badio, l'une des personnes activement recherchées dans le cadre de l'enquête. Le président Moïse a été abattu le 7 juillet par un commando armé à son domicile de Port-au-Prince. Le premier ministre a dénoncé la démarche du procureur, la qualifiant de diversion. 44 personnes, dont 18 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne, ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Jovenel Moïse, commis à son domicile sans qu'aucun policier de sa sécurité rapprochée ne soit blessé.
La Minute Éco, Rosine Munezero.
Le gouvernement tanzanien a payé 2,7 millions de dollars en capital supplémentaire à Shelter Afrique, une institution multilatérale de financement du logement en Afrique. Ce montant porte sa participation au capital de l'entreprise à 1,54% contre 0,3% précédemment. Le groupe panafricain a reçu 9,2 millions de dollars du Kenya, qui devient le premier actionnaire de la société. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a octroyé un prêt de 15 milliards de francs CFA à la République centrafricaine pour la lutte contre le COVID-19 et le renforcement du système sanitaire. La banque a financé plusieurs autres projets, entre autres la création d'un complexe agro-industriel de palmiers à huile et le programme de renforcement et d'extension du réseau GSM de Telecel Centrafrique. Le Togo prévoit de lancer en 2022 le programme Électricité pour tous, écrit Togo First. Dans cette perspective, la ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines, Mila Aziablé, a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire pour s'imprégner de ce que réalise déjà le pays voisin en matière d'électricité pour tous. Le Togo s'est engagé à offrir l'électricité à tous d'ici à 2030.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Il ne chaussera plus les crampons, le Sénégalais Dembaba, ancien attaquant de Chelsea et Newcastle United, met fin à 16 ans de carrière. C'est avec un cœur rempli de gratitude que j'annonce la fin de ma carrière de joueur. Quel voyage merveilleux cela a été. Outre toute la sueur et les larmes que j'ai subies, le football m'a procuré tant de belles émotions, a écrit Dembaba sur Twitter. Il a marqué 14 buts dans toutes compétitions confondues avec Chelsea avant de déménager en Turquie après une saison. Il y a remporté à 2 reprises le championnat turc avec Beşiktaş en 2016-2017 et Istanbul Başakşehir en 2019-2020. Il a effectué 2 séjours en Chine avec Shanghai Shenhua. Il était sans club après avoir quitté le club suisse de Lugano le mois dernier. Dembaba compte 22 sélections avec le Sénégal. La Ligue des champions a repris hier en Europe. Le PSG avec le trio de rêve Messi, Neymar, Mbappé débute sa campagne continentale ce soir avec un déplacement en Belgique chez le club Brugge. Finaliste malheureux fin mai face à Chelsea, Manchester City sera méfiant lors de la réception du RB Leipzig. Un duel de légende, c'est ce que promet la rencontre entre Liverpool et le Milan AC à Anfield. L'Atlético Madrid accueille le FC Porto. Le Borussia Dortmund s'attend à une chaude réception lors de son déplacement en Turquie chez Beşiktaş Istanbul. L'Ajax Amsterdam rend visite au Sporting Portugal, le champion d'Italie contre le vice-champion d'Espagne. La rencontre entre l'Inter Milan et le Real Madrid oppose 2 équipes qui ont changé leur entraîneur à l'intersaison. Le shérif Tiraspol affronte le Shakhtar Donetsk. Hier, grosse surprise d'entrée avec la victoire des Suisses de Young Boys 2-1 face à Manchester United. Cristiano Ronaldo avait ouvert le score pour les Mancuniens. À 36 ans, le Portugais égale le record du nombre de matchs disputés dans la compétition, à égalité avec l'Espagnol Iker Casillas, 177 apparitions. Dans l'autre match du groupe, 2-2 entre le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, et l'Atalanta Bergame. Chelsea, champion d'Europe en titre, a dominé le Zénith Saint-Pétersbourg 1-0. 0-0 entre le Dynamo Kiev et le Benfica. La Juventus, à l'arrêt en championnat avec un seul point pris en 3 matchs, a lancé sa saison avec une victoire autoritaire à Malmö 3-0. Même score en faveur du Bayern Munich qui a battu le FC Barcelone au Camp Nou.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est l'information de ces derniers jours au Sahel. Bamako serait en négociation pour faire débarquer des mercenaires russes sur son sol en vue de lutter contre le terrorisme. Les autorités maliennes gardent le silence ou nient les faits. mais plusieurs médias rapportent depuis la semaine dernière que l'accord serait prêt d'être signé entre la junte malienne et la société privée russe Wagner. Maka Kone, le directeur de publication du journal Nouvelle Libération, est promoteur de la radio Rempart FM. Il est l'un des premiers à avoir révélé ces négociations dans son journal. Il évoque d'abord, au micro de Bagassi Koura, comment on a réagi à cette information au Mali.
Dans l'accord officiel, c'est motus et bouche cousue, comme on dit. Personne ne répond. Les gens, au niveau des autorités, on pense que c'est des rumeurs, que ce n'est pas fondé, que ce n'est pas vrai, tout. Nous, en tant que journalistes, on a fait notre travail. L'opinion en tant que telle est divisée. Certains pensent que c'est une bonne chose parce que les gens se disent que bon, la France est là depuis plusieurs années déjà, elle n'a pas, on est encore dans l'insécurité, l'insécurité vient jusqu'à Sikou et tout. Parce qu'en fait, ils voient ça en tant que. Ça, c'est l'opinion qui voit l'arrivée de Wagner comme la Russie officielle. Maintenant, une autre partie de l'opinion pense que c'est une très mauvaise chose parce qu'elle, elle est convaincue que c'est des mercenaires russes qui vont débarquer au Mali à travers la société Wagner. Donc l'opinion est vraiment divisée. Le Malien d'en bas, l'autorité, elle ne pique pas mot, elle ne dit rien par rapport à ce dossier. Au contraire, les rares personnalités qui en parlent nous disent que c'est faux, c'est des rumeurs.
Alors, s'il y a des Russes, des mercenaires russes, notamment au Mali, que va devenir le G5 Sahel avec qui le Mali travaille?
Il faut avouer que ça va bouleverser toute la, je sais pas si c'est la géostratégie ou comment on appelle ça, en tout cas, ça va bouleverser toute la politique de sécurité et de défense dans le Sahel. Parce qu'aujourd'hui, dans le Sahel, on est surtout habitué à voir la France, surtout la France et un peu les États-Unis et tout. Mais avec le débarquement de la Russie, j'avoue que ça va fondamentalement bouleverser la politique sécuritaire. Puis il y a l'Algérie qui est à côté, comment l'Algérie même va prendre ça.
Alors pour l'instant, personne ne parle des Russes dans le sable malien, on parle juste de formation. Est-ce que c'est convaincant à votre niveau?
Non, j'avoue, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le sable malien. C'est-à-dire que ceux qui parlent de formation, c'est quand même. Et si on s'en tient aux informations que nous avons maintenant, comme je dis, qui ne sont plus que des secrets de professionnels, que l'on découvre partout depuis quelques jours, c'est quand même 1000 hommes qui vont débarquer, au moins 1000 soldats. 1000 soldats ne peuvent pas venir que pour la formation, on n'a pas besoin de 1000 soldats pour former l'armée malienne. Donc forcément, ils vont être là-bas. Il y en a, j'ai dit bien, au cas où le contrat est. En tout cas, aujourd'hui, c'est que le contrat dit. Qu'ils soient signés ou pas, ce qu'on sait du contrat éventuellement, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pas la formation seulement, la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est le terrain, c'est tout. La formation et la protection des hautes personnalités. Donc, ce sont ces trois points fondamentaux, quoi. Donc, dire que même si on ne parle pas du sable, il faut. Le terrorisme, c'est sur le sable qu'on lutte contre ça, parce qu'ils sont fondamentalement installés dans les zones de montagne et de sable.
Maka Kone, directeur de publication du journal Nouvelle Libération et promoteur de la radio Rempart FM.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Première rencontre en Guinée entre les militaires au pouvoir et les acteurs politiques après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Les nouvelles autorités militaires avaient promis d'organiser des consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Plusieurs dizaines de leaders politiques ont répondu à l'invitation du Conseil national pour le rassemblement et le développement au Palais du Peuple à Conakry. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Après une courte allocution du colonel Doumbouya, quelques leaders des partis politiques se sont exprimés, chacun pendant 3 minutes. Promis à prendre la parole, l'ancien premier ministre Sidya Touré se dit rassuré.
Ce qu'il souhaite, c'est qu'on se donne la main et qu'on trouve une solution de sortie de crise qui corresponde aux objectifs qu'eux-mêmes ont définis, et il a beaucoup insisté dans un cadre inclusif. Nous avons répondu, en tout cas moi j'ai été le premier intervenant, que nous soutiendrons une telle démarche parce que nous ne voyons pas ce qu'on peut faire de mieux pour le pays à l'heure actuelle, et que la manière dont les choses se sont engagées, ce que moi j'ai dit. Et l'observation que je fais, l'écoute que je fais du discours qu'il a tenu jusque-là, nous rassure que nous pouvons travailler dans ce cadre-là pour avoir une transition apaisée.
Le président du Conseil national pour le rassemblement et le développement propose un projet de transition inclusive. Celui d'Alain Diallo, principal opposant à Alpha Condé, promet de faire des propositions après une consultation avec les membres de son parti.
Dans son discours, il a dit qu'il souhaitait avoir la contribution de tous les acteurs politiques dans la construction de cette transition. Je pense qu'on va retourner dans nos états-majors et dans nos alliances respectives pour essayer de formuler par écrit notre vision, nos propositions que nous allons soumettre aux nouvelles autorités.
Il fallait se faire enregistrer pour accéder à la salle. Plusieurs acteurs politiques n'ont pas pu participer à la réunion. Saloum Cissé du RPG, parti du président déchu, met en cause les organisateurs.
Le débat n'a pas été exhaustif. Et le débat devrait être exhaustif. Je ne suis pas satisfait. Parce qu'on devrait élargir le débat au niveau de l'ensemble des partis politiques. Mais c'est une poignée seulement qui est intervenue. 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 minutes? Ils disent qu'ils vont respecter quand même, veiller sur l'intégrité physique et morale du président. Ça, on tient beaucoup à ça. Et c'est le seul point positif que j'ai remarqué.
Le colonel Doumbouya a dit vouloir prendre tout son temps, mais il a aussi averti qu'il ne céderait à aucune pression. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les établissements hospitaliers peinent à fonctionner avec du matériel adéquat, faute de financement. La société civile dénonce, dans une enquête, une mauvaise utilisation de l'argent destiné aux hôpitaux et demande aux parlementaires de jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Au centre de santé de l'Ilkana dans les plateaux, la maternité ressemble à un musée où tous les dispositifs sont vieillissants et le personnel travaille dans des conditions insoupçonnables. Denise Nzala est l'une des sages-femmes du centre.
On peut faire les accouchements à bord d'une lampe torche ou bien avec des lampes lucioles. Vous savez, l'accouchement, c'est chercher la maman et l'enfant. Mais faire avec la torche, c'est pas une mince affaire.
À Mongoudou Sud, dans le Niari, le centre de santé dont dépendent quelques 5000 âmes est entre les mains de 2 jeunes diplômés qui doivent partager toutes les tâches sanitaires. Albert Mongeti est devenu par la force des choses chef de centre.
Et la petite chirurgie, les accouchements, la vaccination des enfants, des femmes enceintes, les maladies telles que le palu, ça se repose sur nous deux. Moi, je suis un infirmier diplômé d'État. Celle qui travaille avec moi, elle est puéricultrice. On est des bénévoles.
Et pourtant, depuis 2018, le budget alloué au ministère de la Santé est resté important malgré la crise. Plus de 19 milliards au titre d'investissement de l'année 2019. Mais où va tout cet argent? Un collectif d'associations, Publiez ce que vous payez, a mené une enquête et fait constater que seulement 37% de ces projets de construction, de réhabilitation ou d'équipement ont pu aboutir. Christian Munzeo est le coordonnateur national de Publiez ce que vous payez.
Compte tenu de l'inachèvement de plusieurs projets, des projets abandonnés, des plateaux techniques vétustes et inadéquats, le refus de collaboration des autorités sanitaires en dépit du partenariat formel avec le ministère de la Santé. Et le gouvernement doit davantage travailler sur une gestion axée sur les résultats.
Brice Makosso, un autre membre de ce collectif, estime que les parlementaires doivent pleinement jouer leur rôle de contrôle pour empêcher cette mauvaise utilisation des investissements.
Les parlementaires ont affecté des crédits pour l'équipement du centre de dialyse de l'hôpital de Luangili à Pointe-Noire, alors qu'il n'y a pas un centre de dialyse à l'hôpital de Luangili de Pointe-Noire. Donc nous demandons de la vigilance vis-à-vis des parlementaires lorsqu'ils votent les budgets, lorsqu'ils allouent des crédits.
Sur les 77 projets de santé lancés et financés par le gouvernement, nombreux peinent à être achevés. Le cas des 12 hôpitaux généraux. Pour l'analyse sociale Gakoso Obambé, il faut que la transparence devienne la règle.
Il ne s'agit pas seulement de la question de renforcer le contrôle, parler de l'inspection générale des finances ou autre, mais il y a d'abord et avant tout la question de la traçabilité, de la transparence. Chaque citoyen doit savoir qu'est-ce qui est fait du moindre centime qui entre au trésor public.
La coordination nationale Publiez ce que vous payez est déjà à son 3e rapport sur le suivi des investissements dans le secteur de la santé. Mais elle n'a jusque-là récolté que le vent. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, le gouvernement envisage une énième prolongation de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette mesure est censée mettre fin aux activités des nombreux groupes armés qui écument la région, mais tarde à produire les résultats escomptés. Mohamedou Oumfa s'est entretenu avec Stuart Mohindo. Il est membre de la LUCHA, Lutte pour le changement, un mouvement citoyen basé en RDC.
L'envie du gouvernement de prolonger l'état de siège contraste avec la situation sécuritaire, mais aussi avec les avis de population. À Beni, par exemple, où je suis, depuis hier, donc le lundi et le mardi, nous sommes en train d'observer une ville morte à l'appel de la société civile locale pour effectivement condamner la persistance de l'insécurité malgré l'état de siège. Que ce soit en Ituri, que ce soit en territoire de Beni, les tueries se poursuivent, les attaques contre les populations se poursuivent, sans que les services de sécurité ne se montrent à la hauteur de la menace. Donc c'est plutôt étonnant que le gouvernement envisage de prolonger toujours l'état de siège, alors que sur le plan du vécu quotidien, il n'y a rien qui se fait pratiquement sur terre.
L'objectif de cet état de siège est de faire cesser les massacres de civils dans ces provinces, mais depuis le mois de mai que l'état de siège a été décrété, les violences continuent. Pourquoi selon vous?
Les violences se poursuivent et elles sont encore plus intenses, plus vives et encore plus répandues qu'elles ne l'étaient même avant l'état de siège. Et cela, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il n'y a pas eu une évaluation sérieuse des causes des échecs des opérations militaires précédentes, mais aussi il n'y a pas eu un accompagnement sérieux, une planification vraiment objective, sérieuse de l'état de siège. Et c'est comme ça que, par exemple, on a vu que au niveau des entités territoriales décentralisées, les autorités ont été nommées des mois après la déclaration de l'état de siège. On a vu que les moyens ont été décaissés avec retard. Donc, bref, c'était comme une décision qui n'avait pas été précédée d'une évaluation sérieuse des échecs des opérations militaires précédentes, ni d'une planification efficace, réaliste pour la neutralisation de groupes armés.
Ça fait quand même 25 ans que ces violences durent et on ne va pas certainement les arrêter en quelques mois. Que faut-il faire de plus selon vous pour trouver une solution durable à ce phénomène?
Pour résoudre ces violences, nous pensons en fait d'abord que dans ce contexte, il faut démilitariser complètement l'administration et la justice. Il faut donner aux militaires l'opportunité de se concentrer aux opérations militaires et laisser l'administration et la justice entre les mains des civils. Deuxièmement, il faut soutenir, que ce soit sur le plan financier que logistique, les forces armées congolaises qui sont engagées à combattre. Il faut également trouver une alternative à la MONUSCO qui est là mais qui n'appuie pas suffisamment les forces armées congolaises. On a vu des expériences comme Artemis au début des années 2000 en Ituri qui a porté de fruits. Il faut également mettre en place un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire des miliciens qui souhaitent rentrer les armes. Et il faut apporter des solutions au problème de mauvaise gouvernance. Parce que toutes les violences qui sont entretenues ici, c'est parce qu'il y a cette mauvaise gouvernance et c'est le travail des Congolais de se battre pour de bonnes élections, pour une vraie démocratie. Parce que la base de toute cette insécurité, c'est ce manque de leadership politique sérieux qui se sent redevable envers le peuple, qui a été élu par le peuple et qui est au service du peuple.
Stuart Mohindo, membre de la LUCHA, Lutte pour le changement, un mouvement citoyen basé en RDC.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'agenda socio-économique de Joe Biden face à un congrès divisé. Fortement critiqué sur le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, le président américain tente de se relancer en remettant sur la table son plan de réforme sociale de 3 500 milliards de dollars. Un plan désormais sous menace avec les réserves d'un sénateur démocrate modéré et d'un camp républicain foncièrement contre. Joe Biden et les démocrates peuvent-ils surmonter les obstacles à la mise en place de leur programme à un peu plus d'un an des élections de mi-mandat? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.